première invitée de ces matins du samedi, une femme qui se dit à demi libanaise, un quart arménienne, un quart circassienne, mais qui a aussi des racines syriennes et palestiniennes. Elle est journaliste et écrivaine, poétesse également. Elle a publié des essais remarqués comme « J'ai tué Scheherazade, confession d'une femme arabe en colère », c'était en 2010, dans lequel elle déconstruisait les stéréotypes de la femme arabe et qui a été traduit dans une douzaine de langues. Et puis on peut citer également d'elle en 2013 « Superman est arabe », qui lui dénonçait le système patriarcal en vigueur dans le monde arabe et qui condamnait la virilité prédominante. Son dernier livre est un roman. Il met en scène quatre femmes, aux prises avec les tourments de l'histoire du Moyen-Orient sur un siècle, de l'Arménie à la Syrie, en passant par la Palestine et le Liban. Ce roman est en lice pour le prix du meilleur livre étranger 2019, qui sera remis le 31 octobre, me semble-t-il, peut-être un peu plus tard, je ne sais pas, nous vérifierons. Et elle est l'invitée cet après-midi, ça c'est sûr, du festival Arabofolie à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Djoumana Anad, bonjour.
Bonjour
et bienvenue dans ces matins du samedi. Votre livre s'intitule « Le livre des reines ». Il a paru aux éditions Jacqueline Chambon dans une traduction d'Arnaud Biel. C'est quatre reines. Quatre reines d'ailleurs, chacune d'entre elles a une page dédiée qui introduit le chapitre. Nous avons la reine de carreau, celle qui ne cesse de revenir, dites-vous. Nous avons la reine de cœur, celle dont les yeux réveillent le tonnerre. Nous avons la reine de pique, celle dont les bras ont mené 1 million de batailles. Et puis nous avons, il reste la reine de trèfle, celle qui a conquis la fin de ses commencements. Ces quatre reines d'un jeu de cartes, donc. Le jeu de cartes, c'est pour dire quoi? L'aléa des destins, un jeu distribué au hasard des vies?
Oui, c'est pour dire surtout combien ce que nous pouvons être et vivre dans ce monde et peut être arbitraire. C'est-à-dire, chacun de nous reçoit une carte à notre naissance. Moi, je n'ai pas choisi les éléments de ma propre carte. J'ai dû hériter, ça m'a été imposé. Mais en même temps, on a le devoir, à un certain moment de notre vie, de regarder cette carte et puis d'essayer de la changer, de l'améliorer, tant bien que mal. Et voilà ce que les quatre reines, mes quatre reines à moi, ont essayé de faire malgré tous les coups qu'elles ont reçus, toutes les souffrances qu'elles ont endurées, qui étaient en quelque sorte incroyables, impossibles à imaginer pendant une vie, mais qui étaient bel et bien vraies.
Vous en faites des combattantes, malgré toutes ces souffrances souvent atroces. Effectivement, elles continuent de se battre. Et ce qui fait leur particularité à chacune, c'est qu'elles continuent d'espérer que leur fille ait une meilleure vie qu'elle. Par exemple, l'une dit à sa fille que la seule chose sur laquelle elle ne voulait pas transiger, c'était son avenir. Un jour, Kadar deviendrait ce que Kana, sa mère, ne pouvait pas être. Ce que Kana aurait pu être, si seulement. Vous avez voulu en faire, Djoumana Anad, des combattantes, des battantes.
Oui. Tout d'abord, je ne crois pas que je pourrais être capable de créer des personnages féminins qui ne soient pas des combattantes et des battantes. Je dis toujours que c'est un défaut professionnel. D'un autre côté, puisque ce livre est inspiré plus ou moins largement, de l'histoire de ma propre famille et de certaines femmes dans ma famille, j'avais devant moi un exemple vivant de cette persévérance, de cette obstination à se relever malgré toute la douleur qu'on a, malgré la séduction de l'abandon, malgré parfois l'injustice insupportable du destin.
C'est un roman ambitieux, hein, puisque cette saga familiale s'étend sur 4 générations. Elles ont tout un lien de cœur, de sang, de famille. Dans un Moyen-Orient qui est donc déchiré par les tragédies du siècle, vous appelez ça le melting pot maudit nommé Moyen-Orient. On va du génocide arménien au conflit israélo-palestinien, des luttes entre chrétiens et musulmans au Liban à la Syrie. C'est très ambitieux, dites donc, Djoumana Anad.
Bon, ça résume un peu ma propre vie. Lorsque j'ai commencé l'écriture, lorsque j'ai commencé la conception de ce roman, je voulais J'étais surtout penchée sur le génocide arménien parce que c'était en quelque sorte une histoire que je tenais surtout à raconter à cause de ma propre grand-mère arménienne qui, elle aussi, a survécu, entre guillemets, au génocide arménien quand elle n'avait que 3 ans. Ce génocide s'est déclenché en 1915. Lorsque j'ai commencé à penser sérieusement à l'écriture de ce roman, nous étions en 2015. J'ai regardé ces 100 ans étalés devant moi et je n'ai vu que guerre, que violence, que haine. Et puis, je me suis dit, mais donc, est-ce que c'est notre destin vraiment? Est-ce qu'on va jamais arriver à briser ce cercle vicieux? Et c'est là où je me suis décidée à créer en quelque sorte cette saga ambitieuse qui... voulait rendre aussi ce cercle vicieux et peut-être quelque part me réveiller à moi et réveiller les consciences des autres sur la nécessité de briser cette malédiction.
Ces êtres de papier qui sont faits d'êtres de chair et d'os, puisqu'ils sont inspirés, le disiez-vous, de votre propre histoire familiale, Jumana Haddad, ces êtres de papier, est-ce qu'ils peuvent, d'une certaine façon, aider à renverser les destins? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, écrire, ça a été comme un exutoire, une façon d'exorciser la violence, et peut-être d'espérer prendre la force de ces êtres-là pour la vivre en vrai?
Prendre la force de ces êtres-là, oui. Sans doute. Et ça a eu cet effet sur moi, mais exorciser la douleur, la mémoire de cette souffrance, là, c'est vraiment beaucoup d'ambition parce que c'est une sorte de douleur dont on ne se débarrasse peut-être jamais et peut-être... Quelque part, il faut jamais s'en débarrasser parce qu'elle nous forge, elle me donne à moi, du moins, la force de continuer à lutter malgré tout. Elle m'inspire cette douleur, elle me provoque, elle m'incite à ne jamais baisser les bras. Et c'est une force dont j'ai besoin quotidiennement dans ma vie, dans ma propre guerre, dans ma lutte contre plusieurs formes d'injustice que je vis au Liban, dans mon pays.
Vos 4 femmes, elles ont quelques points communs, outre qu'elles appartiennent à la même famille. Elles ont quelques points communs, par exemple, elles portent toutes un prénom dont la lettre initiale est un Q. D'ailleurs, le titre original de votre livre, Jumana Haddad, qui s'intitule en français Le Livre des Reines, c'était Q. Donc elles s'appellent Kaya, Kana, Kadar et Kamar.
Oui.
D'où ça vient? Ces noms, ils ont un sens, une résonance particulière.
Ça vient des reines, parce que les cartes, dans la carte de jeu, qui a pas mal habité mon enfance, puisque quand j'étais petite et que la guerre civile libanaise s'est déclenchée, presque tout le monde, y compris mes parents, jouait aux cartes dans les abris, en attendant que les explosions se calment. Et je me rappelle que j'étais toujours en colère parce que le roi, dans le jeu de cartes, est plus fort que la reine. C'était celui qui avait le roi qui gagnait. Et déjà à 7, 8 ou 9 ans, je trouvais ça très injuste. Lorsque j'ai eu l'idée de créer les 4 personnages, je me suis tout de suite souvenue de ces 4 reines et de la lettre Q qui se trouve sur la carte de jeu pour dire « Queen ». Et c'est de là qu'est venue l'idée d'utiliser des noms qui commencent par cette lettre-là.
L'autre point commun, elles ne l'ont pas toutes, mais certaines d'entre elles en tout cas, c'est leur chevelure rousse.
Oui. J'aurais bien aimé, tout d'abord, moi, avoir une chevelure rousse. Pour moi, par exemple, l'image de Lilith, la femme libre, indépendante, pour moi, est toujours accompagnée de ses boucles rousses. Parce que c'est le feu, c'est la rébellion. Et j'ai voulu marquer physiquement aussi ces femmes par leur caractère, par leur résilience, par leur refus de s'abandonner abandonnés à leur sort. Et pour moi, l'une de ces marques était la chevelure rousse.
Il y a beaucoup de poésie également, Joumana Haddad, qui accompagne ce livre. Vous en citez beaucoup, vous donnez des références. Certains vers, en tout cas, ouvrent les chapitres. Et puis, un poète en particulier vous accompagne tout au long de ce livre, c'est Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish que vous mentionnez au passage d'une page, en particulier ce poème Rita et le fusil. On va entendre le grand compositeur, chanteur et oudiste libanais Marcel Khalife lire Rita et le fusil de Mahmoud Darwish. Mais avant qu'on l'entende, j'aimerais que vous nous disiez un mot de ce poème-là, de ce qu'il raconte, de ce qu'il dit.
Alors, Mahmoud Darwish raconte dans ce poème une histoire d'amour qu'il avait avec une fille, une jeune fille qui s'appelait Rita, ou qu'il a appelée Rita dans ce poème, qui était israélienne. Et donc, pour lui, il y avait le fusil entreposé entre cette jeune fille et son amour pour elle. Et ça peut très bien résumer l'histoire de beaucoup de gens, mais aussi l'histoire de ce Moyen-Orient, de ce monde arabe qui trouve toujours un prétexte pour se haïr au lieu de trouver, d'inventer des prétextes pour s'aimer.
والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية بين ريتا وعيوني بندقية والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية وأنا قبلت ريتا عندما كانت صغيرة وأنا أذكر كيف التصقت بي وغطت ساعدي أحلى ضفيرة وأنا قبلت ريتا عندما كانت صغيرة وأنا أذكر كيف التصقت بي وغطت ساعدي أحلى ضفيرة وأنا أذكر ريتا مثلما يذكر عصفور غديرة آه 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 ريتا.
Joumana Haddad, à côté de Kaya, l'arménienne, née en 1912, de Kana, la palestinienne, née en 1946, de Kadar, la libanaise, née en 1970, et de Kamar, la syrienne, née en 1997, il y a des hommes. Et les hommes de votre roman, ils ne sont pas présentés sous leur plus beau jour, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez cette vision très noire, très négative des hommes? Est-ce que ces femmes et vous derrière, vous les voyez comme des ennemis?
Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais, durant tout mon combat pour la dignité des femmes et leurs droits, je n'ai jamais eu tendance à généraliser à propos des hommes. Mais il faut dire que dans mon monde à moi, et même dans le monde en général, j'oserais ajouter, nous ne sommes pas entourés d'hommes qu'il serait facile de présenter sous leur meilleur jour. Il y a beaucoup de sexisme au Liban, malgré tout ce qu'on dit à propos de la modernité, de l'émancipation de la femme, etc. Il y a beaucoup de discrimination, d'injustice. Il y a des harceleurs, il y a des violences. violeurs, il y a des hommes qui ne permettent pas aux femmes d'avoir même un petit rôle dans la gouvernance du pays. Et donc, pour moi, c'était venu naturellement le fait de raconter des histoires de femmes qui m'entouraient, avec qui j'ai grandi et qui vivaient toutes ces histoires et même pire, je dirais.
En même temps, les femmes aussi en prennent pour leur grade. Hein.
Ouais.
Par exemple, la narratrice reproche, et on entend vraiment votre voix derrière, c'est pour ça que j'ai du mal à dire la narratrice ou l'autrice, reproche à un certain nombre de femmes d'élever leurs fils comme des rois, qui considèrent le corps des femmes ensuite comme des trophées. Vous pointez du doigt une responsabilité des femmes dans cet état de fait, et donc un rôle des femmes dans leur propre émancipation derrière le roman.
Oui, parce qu'au-delà du fait certain que ces femmes-là sont le produit de cette société et de cette éducation patriarcale, et donc évidemment, elles ne vont pas être naturellement portées à être plus juste dans leur éducation de leurs enfants, et elles vont être beaucoup plus inclinées à célébrer cette masculinité qu'elles ont elles-mêmes été élevées à adorer. Au-delà de ça, je crois à la responsabilité que nous avons en tant qu'adultes de regarder les faits et puis de décider à la base de nos propres expériences. Et donc, je ne peux pas complètement transformer la femme en victime. Évidemment, il y en a des victimes complètes, mais dans la plupart des cas, c'est non, c'est pas le cas. Il y a des femmes qui souffrent à cause de ce patriarcat, à cause de cette injustice, et qui quand même continuent à la perpétrer avec leurs propres enfants. Elles élèvent leurs filles pour ne rêver que du mari, de la famille, et leurs fils à se croire des empereurs. Et c'est ce qui va les transformer en hommes sexistes et misogynes. Moi, j'ai eu une mère qui avait un niveau d'éducation très très modeste, mais qui quand même était une battante et qui m'a élevée pour vouloir plus dans ma vie. Donc c'est disponible, c'est là, cette capacité à se rebeller à son sort. Et c'est pourquoi je veux bien que les femmes soient provoquées par mes propos. Ça me dérange pas du tout, pour qu'elles se réveillent, pour qu'elles se disent « mais oui, j'ai une arme ». Incroyablement puissante, c'est l'éducation de mes enfants. Je peux changer le monde avec ça.
À propos de monde, il s'agit d'un roman monde, et aussi d'un roman monde à travers la langue que vous utilisez, ou plutôt à travers les langues que vous utilisez. D'abord un mot, Jumana Haddad, parce que ce livre est traduit par Arnaud Biel, mais de l'anglais.
Ouais.
Je vous avoue ma surprise, je sais que vous parlez cette langue,
ouais.
Mais pourquoi l'anglais comme langue d'écriture ?
C'est pas que l'anglais comme langue d'écriture. J'ai déjà écrit des livres en français, en espagnol, en italien,
mais celui-là,
en arabe, je ne sais pas
comme
pourquoi.
Ça.
Moi, je m'abandonne, c'est-à-dire l'idée d'un ouvrage vient en une certaine langue et vient pourtant avec elle-même son genre. Et je me laisse aller, j'aime m'explorer. Il y a un défi quand ce n'est pas notre langue maternelle. Et comme je suis un peu dépendante au défi, j'aime beaucoup voir qu'est-ce que ça peut donner.
Bon, en l'occurrence, il y a des langues puisqu'il est écrit en anglais, mais en l'occurrence là, on le lit en français, nous, mais il contient également énormément de mots, de notions, d'expressions, de citations dans toutes les langues du monde arabe. On lit de l'arménien, on lit du syrien, on lit du libanais. Oui. Il y a beaucoup de notes de bas de page également pour que la lecture soit facilitée pour les Français comme nous.
Oui, et en plus, j'aimerais bien dire que même lorsque j'écris dans une langue qui n'est pas l'arabe, j'insiste pour que le livre sorte en premier en arabe avant les autres langues, même quand c'est la langue originale, parce que pour moi c'est important que les lecteurs et les lectrices du monde arabe puissent recevoir mon message en premier.
Jumana Haddad, on va vous retrouver d'ici deux minutes, on laisse passer les titres de l'actualité sur France Culture, il est 7h30, à tout de suite. Et on retrouve notre invitée de ce matin, Djoumana Haddad, autrice du livre « Des reines » qui paraît aux éditions Jacqueline Chambon. Djoumana Haddad, écrivaine, poétesse, journaliste. Est-ce que vous diriez aussi activiste aujourd'hui? Parce que vous vous êtes présentée aux dernières élections parlementaires dans votre pays, le Liban. Vous y avez aussi créé une ONG, le Centre Djoumana Haddad pour les libertés. Et vous étiez en colère dans votre livre précédent, hein, il y a une dizaine d'années. Vous semblez toujours assez en colère.
Plus qu'avant, je dirais, parce que les raisons, les sources de cette colère sont les mêmes et je dirais pire encore que lorsque j'ai déclaré ma colère il y a 10 ans dans mon livre « J'ai tué Shahrazade ». Mais à tous les niveaux, non seulement au niveau des droits humains et de l'égalité pour lesquels je lutte depuis une vingtaine d'années, mais aussi et surtout au niveau politique. Il y a énormément de corruption, d'injustice, d'indifférence dans notre classe politique et malheureusement les dernières élections dont vous venez de parler en 2018 n'ont pas beaucoup changé le paysage parce que ces leaders contrôlent pas mal de Libanais avec un instinct confessionnel diviseur. Et donc c'est pourquoi je dis que la première façon, la plus importante façon de combattre cette corruption et tous les problèmes dans notre pays, c'est de faire la séparation entre la religion et l'État. Est-ce que c'est possible au Liban? On va faire en sorte que ce soit possible.
En ce moment, les choses vont pas bien. Ce pays est très agité. Il y a des très violents incendies qui dévastent plusieurs régions boisées. Une violente polémique est née à l'occasion de ces incendies face à l'incurie politique. Et puis, le gouvernement de Saad Hariri est confronté à des appels à la démission. Il y a des milliers de personnes en colère qui ont manifesté toute la nuit vendredi, brûlant des pneus, coupant des routes pour dire leur ras-le-bol face à une crise économique qui perdure, Djoumana Haddad.
Oui, et je dirais que les choses vont bien à cause de ça, à cause du fait que les gens sont enfin descendus dans les rues. J'attendais ce moment, ce ras-le-bol. Il a assez tardé d'ailleurs, mais ça veut dire que les gens sont prêts au changement, et je l'espère, parce que vous parliez tout à l'heure de l'incurie de l'État à affronter un problème assez fondamental, c'est-à-dire assez normal qu'il faut affronter, comme les incendies qui peuvent advenir, mais il y a cette incurie partout, à tous les niveaux, et donc enfin les Libanais et les Libanaises se rebellent, et moi j'ose croire à une révolution, mais pas dans le sens qui fait peur désormais dans le monde arabe, dans le bon sens du terme, à une révolution qui mettrait fin à ce confessionnalisme, à cette corruption, à cette indifférence de la classe politique, et qui pourrait faire venir des gens honnêtes qui veulent vraiment être au service du peuple.
Et pourtant, vous donnez l'impression, en tout cas avec ce roman qui contient d'ailleurs une note au lecteur expliquant à quel point vous avez mis du vôtre dans ce livre, dans cette biographie familiale inventée, pour reprendre vos termes, vous laissez entendre une supériorité de l'art sur l'histoire, une supériorité du roman sur l'histoire, parce qu'elle peut donner, le roman, il peut donner vie et parole aux oubliés, aux vaincus, aux victimes, aux gens, pour le dire en général. Mais malgré tout, vous croyez aussi à la force de la révolution dans la vraie vie?
Les deux. Les deux sont nécessaires. En tant qu'écrivaine, je n'aurais jamais pu survivre sans ce pouvoir qu'a la littérature et l'art. Ils m'ont vraiment sauvé la vie, littéralement. Et donc, pour moi, la littérature sera toujours beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique même que la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher de cette réalité et ne pas lutter.
Djoumana Haddad, vous teniez à ce que nous diffusions une chanson particulière. Vous nous en dites 10 secondes, un mot, avant qu'on entende quelques notes.
Oui, c'est une chanson de Mashwa Layla, qui est une bande musicale très importante au Liban. Et donc, elle a été récemment censurée dans notre pays avec une accusation qui a limité leur liberté d'expression parce que ils utilisent quelques paroles de qui ont été mal interprétées par les religieux. Et donc
alors on l'écoute.
لأني نير ما أنزل عم بطلع عم ولا أطلع عم بنزل عم ولا أنزل عم بطلع عم
Merci Joumana Haddad.
Merci Caroline.
Le livre des reines apparu aux éditions Jacqueline Chambon. Vous serez cet après-midi à 16h30 à l'Institut du Monde Arabe à Paris pour une conversation d'une heure animée par la journaliste Francesca Isidori dans le cadre du festival Arabo Folie.